La sagesse de tout l'univers se trouve dans une tasse de thé, dit le proverbe touareg. Et dans une tasse de thé, il y a aussi du voyage, des rencontres et des aventures. Des arômes, des émotions et des histoires. François-Xavier Delmas est chercheur de thé depuis 30 ans. Sa passion ? Nous emmener faire le tour du monde de ses découvertes. Bienvenue sur les routes du thé.
Bonjour Sidonie.
Bonjour François-Xavier. Je suis tellement heureuse de te retrouver. Alors tu sais, pendant 4 saisons, on a goûté des thés, on a beaucoup beaucoup voyagé et tu nous as toujours raconté des histoires, des légendes de thé. Et je me suis dit, oh, j'ai envie d'avoir un épisode où on raconte encore plein d'autres légendes et surtout j'aimerais goûter les thés qui vont avec ces légendes.
Bon, eh bien, écoute, je t'ai préparé quelque chose, j'espère que ça va t'aller. Donc aujourd'hui, c'est la journée des histoires, voilà, un podcast autour des légendes du thé.
Je me rappelle d'une des histoires qui est un peu la légende originelle du thé, c'est comment le thé est-il né ?
Alors, il y a deux grandes légendes. Il y en a une peut-être un peu plus grande que l'autre. Alors, c'est la légende chinoise.
Oui.
Donc, la légende chinoise, c'est en 2700 environ avant Jésus-Christ. Et il y a un empereur en Chine qui s'appelle Shen Nong.
Mm-hmm.
Donc, lui, il a existé pour de vrai. Et on raconte qu'il avait coutume de faire la sieste. Quand il le pouvait, il faisait la sieste dehors. Il avait toujours coutume de boire un bol d'eau chaude après son repas.
Oui, comme on fait pas mal en Asie, je crois.
Voilà, un bol d'eau chaude. Non, moi, je mets du thé dedans, mais bon.
C'est mieux le thé, évidemment.
Donc, un bol d'eau chaude, il faisait beau, il fait sa sieste, notre empereur fait sa sieste tranquillement dehors. Et voilà une petite brise qui se met à souffler. Un arbrisseau perd une feuille qui vient se poser malencontreusement dans la tasse de notre empereur. Alors là, tous les serviteurs accourent pour lui changer immédiatement son bol et lui... d'un geste de la main, il dit « Non, c'est la nature qui l'a choisi, je vais boire. » Et la feuille était tout simplement une feuille de camélia. Il l'a laissé infuser ainsi dans son bol. Et c'était donc du thé. Il a bu, il a trouvé ça délicieux. Et le thé était né.
Incroyable. C'est une histoire magnifique.
Alors, c'est une histoire magnifique et complètement bidon.
Ah bon ?
Oui, parce que si tu prends une feuille de camélia sinensis et que tu la mets sur la surface d'un bol d'eau chaude, il se passe strictement rien.
Ah, parce qu'elle est fraîche.
Voilà, la feuille de thé, qu'est-ce qui fait qu'un thé devient vert, noir, etc. C'est parce qu'il y a une sorte, on a un petit peu malmené la feuille et on lui a fait supporter différentes épreuves et c'est ça qu'elle rend. Après, à la tasse, en mettant une couleur. Mais si tu prends une feuille de camélia sinensis et que tu la mets dans de l'eau, tu auras toujours de l'eau. Voilà. Mais tu voulais une légende. C'est quand même la plus fameuse légende, notre cher empereur Shen Nong. Moi, je l'aime bien. Je le vois tellement là, en train de faire sa petite sieste.
Il n'était pas débordé, visiblement.
La brise. Ah, mais peut-être qu'il avait beaucoup de boulot le matin. Mais en tout cas, il a bien raison. Après le repas, il faisait une sieste en s'hydratant avec un bol d'eau chaude. Donc ça, c'est la belle légende chinoise.
Tu en as une autre ?
Alors, il y a une légende indienne qui est assez différente. La légende chinoise, c'est aussi la plus ancienne parce que la Chine, c'est le pays de thé par excellence. Et on a des traces de consommation de thé peut-être un millénaire avant la naissance du Christ. Donc, alors peut-être qu'au départ, le thé, c'était des offrandes. On a trouvé en fait des pots de thé dans des tombeaux. Donc, est-ce que c'était une offrande ? Est-ce que le thé, on le buvait ? Et ça, c'était à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc, l'usage du thé dans cette région du monde, c'est évidemment là que le thé est né et c'est extrêmement ancien. Donc, c'est assez logique que ce soit la légende la plus ancienne. Alors, en Inde, on a notre prince Bodhidharma. Alors, Bodhidharma, lui, il faisait pas la sieste après le repas. C'était pas vraiment le genre de gars à faire la sieste parce que lui, il avait fait vœu de ne pas s'endormir pendant 3 ans.
C'est gonflé.
Je ne sais pas si c'est gonflé, mais c'est difficile, surtout. Hein. Pour d'être gonflé, c'est difficile. Et au bout d'un an ou deux, un soir où il sent une fatigue particulière, parce que déjà, on peut l'imaginer, il s'endort. Et au moment où il se réveille, mais il a tellement honte que dans un excès d'une sorte de rage ou de mécontentement, il s'arrache les deux paupières et il les met dans la terre, là où il se trouve, et il se dit, bah, comme ça, au moins, je ne risque plus de fermer les paupières et de m'endormir. Mais pourquoi tout ça, ça se relie au thé? C'est parce qu'en fait, plusieurs années après, repassant par hasard sur le lieu où il s'était arraché cette partie de son corps qui nous aide quand même beaucoup à nous reposer, en repassant au même endroit, il voit deux arbrisseaux. Eh bien, figure-toi que ces arbrisseaux, justement, se sont détaillés et la forme des feuilles détaillées épouse la forme des paupières de Bodhidharma. Et c'est pour ça que le thé a la propriété de maintenir l'esprit en éveil.
Oh, j'adore. Magnifique légende. Totalement bidon.
Ah, je sais pas.
Ah dis donc.
Bah, pour une raison simple. La première, j'ai essayé, ça marche pas. Et la deuxième, oui. J'ai pas essayé.
Oui, tu as raison. Garde tes paupières, tu en as besoin. Voilà. Vu tous les voyages que tu réalises. Alors, il y a beaucoup d'autres légendes.
Le thé est plein de légendes. Tu sais, le thé, c'est des terres de magie. Déjà, ça vient de loin. Donc déjà, dès que ça vient d'un autre village, et le thé, il vient à des milliers et des milliers de villages, et dès que quelqu'un part à pied d'un village pour aller dans le village d'à côté, il raconte les histoires des autres villages. Donc ça, c'est aussi vieux que l'humanité. Donc c'est assez logique que le thé soit plein de légendes.
Tu nous racontes ces deux légendes, donc de l'origine du thé.
Ouais.
Puis il y a des légendes aussi sur chaque thé.
Ah ben, il y a des légendes sur tout.
Par exemple, est-ce qu'il y a des légendes sur le thé noir?
Ah bah bien sûr qu'il y a des légendes sur le thé noir. Bah, le thé noir en soi, c'est déjà le sujet d'une légende. C'est une légende, il y a peut-être des personnes qui pensent que c'est vrai, mais c'est sans doute une légende. En fait, en Asie, le thé, il est vert. On n'a jamais fait de thé noir. C'était pas tellement le truc. Il y a eu des thés sombres parce que c'était des thés verts qui voyageaient sur des animaux qui étaient battés. Et donc, aux alentours du 18e siècle, quand le thé arrive par bateau à Londres, le thé a été malmené dans les cales des navires. Elles n'étaient pas saines, les cannes, c'était humidité.
Ouais.
Et donc, le thé qui arrivait à Londres était du thé noir, du thé oxydé. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'il quittait la Chine. Donc, la légende consiste à dire qu'en fait, c'est les cales humides des navires qui ont transformé le thé vert peu à peu en thé noir et que c'est comme ça que le thé noir serait né par accident, juste à voyager dans des conditions peu saines.
C'est assez réaliste?
C'est pas impossible, mais c'est une jolie histoire. Il y a plein de jolies histoires.
Alors, il y en a d'autres, des histoires, et notamment, il y a un thé que j'adore, moi, c'est le thé blanc, et que j'ai découvert avec toi en faisant ce podcast depuis quelques années. Est-ce que ce thé a une légende intéressante, curieuse, passionnante?
Celui-là, il en a trop.
Ah bon?
Tiens, ça tombe bien, regarde, on a devant nous d'ailleurs un thé blanc.
Oui.
Des jolies, très belles aiguilles d'argent de Chine. Regarde, pendant que je te raconte l'histoire, ces légendes, tu peux admirer ces bourgeons argentés comme ils sont beaux. Alors, il y a beaucoup de légendes autour du thé blanc. Parce que c'est une récolte extrêmement rare. Tu vois, c'est des bourgeons. Quand tu vas récolter ça, t'imagines que le travail qui consiste à récolter un bourgeon à la main, c'est le même que de récolter un bourgeon et deux feuilles. Donc, on a en fait beaucoup plus de boulot pour un résultat très petit. Et les légendes sur le thé blanc, elles sont un peu faites, à mon avis, pour justifier un prix très élevé de cette famille de thé.
Ça fait partie des thés les plus chers?
Oui, les thés blancs sont toujours très chers. Alors, on te raconte que le thé blanc, et ça c'est ce qu'on raconte même en Chine, que le thé blanc n'est récolté que les nuits de pleine lune. Donc c'est déjà très joli. Donc déjà de récolter la nuit, c'est pas facile, parce que déjà le jour c'est du boulot, mais la nuit, alors bon, s'il y a la pleine lune, ça va mieux. Par des jeunes filles.
Ah.
Alors tu vois, des jeunes filles, les nuits de pleine lune, avec des ciseaux d'or. Et alors, cette légende-là, j'en ai entendu tellement et tellement de variantes. Parfois, ça va même jusqu'à parler de virginité, c'est te dire, concernant ces jeunes filles,
bien
si
entendu.
On est prêt à croire n'importe quoi, parce que j'imagine mal qu'il y ait le moindre contrôle qui soit exercé sur ce genre de choses. Donc, c'est complètement aberrant. Mais on aime les... En fait, je crois quelqu'un qui boit du thé, ça lui plaît aussi qu'on lui raconte des histoires. Quelqu'un, en Chine, ça ne le gêne pas pour te vendre un thé blanc, de te dire, mais vous savez, hein, c'est uniquement les nuits de pleine lune qu'il a été récolté sur telle montagne, et toutes les jeunes filles avaient des ciseaux d'or.
C'est pour dire la rareté, en fait, François.
Oui, c'est pour dire que c'est précieux, c'est rare. J'ai déjà vu en Chine aussi des personnes qui me racontaient que c'était récolté avec les dents ou du bout des lèvres, comme ça, pour donner une sorte de message à la fois charnel et précieux, de comme s'il y avait besoin de donner un luxe inouï. Et en fait, pour moi, ça, c'est des légendes bizarres, parce qu'elles sont là pour essayer de donner de la valeur à quelque chose, comme si finalement, ils en avaient besoin.
Comme si le thé ne se suffisait pas.
Alors qu'en fait, tu goûtes un thé, bon, tu es à même d'apprécier si tu le trouves délicieux ou pas. Alors, ce qui est vrai dans ce thé-là, et ça, c'est pas une légende, c'est que c'est un thé qu'on peut qualifier d'impérial. Parce que ce type de récolte, c'était des récoltes qui étaient faites pour l'empereur. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi des thés du tribut, c'est-à-dire qu'on devait... quelqu'un qui récoltait les plus beaux thés avait l'obligation, comme un impôt, d'en réserver une partie pour Pékin. Et voilà, ça, c'est bien le type de thé qui est réservé à l'empereur. Donc, il y a tout un imaginaire qui tourne autour de l'empereur. Alors, tu peux y ajouter des ciseaux d'or, des pleines lunes et toutes les jeunes filles que tu veux.
Est-ce que la jeune fille que je suis peut goûter ce thé? Que je n'aurais pas récolté une,
sans examen, absolument.
Une nuit sans examen et avec aucun ciseau, ni mes dents d'ailleurs.
Si tu veux, c'est très fin.
Bah, le thé blanc, c'est extraordinaire.
C'est très délicat, c'est une grande délicatesse.
Bah, c'est agréable d'écouter la légende et de goûter le thé en même temps que la légende, ou d'écouter la légende après avoir bu un thé blanc, ça va très bien ensemble.
Est-ce que tu sens la pleine lune, Sidonie ?
Je sens la pleine lune. Je sens la rareté de ce thé, sa délicatesse. Il faut le dire, c'est très délicat. Dans les voyages qu'on a fait ensemble, François-Xavier, je me rappelle, je ne sais plus où on était, mais tu m'as parlé de singes, d'une légende avec des singes qui récoltaient. Est-ce qu'il y a les jeunes filles, puis il y a les singes, on va pas faire travailler avec les jeunes filles.
Ah, alors les singes, il y a plusieurs choses avec les singes. Alors, l'histoire en général, c'est à peu près toujours la même, mais je pense qu'il y a eu un bout de vrai. Je pense qu'au départ, tu as une histoire un peu vraie et qu'à la fin, ça devient des légendes. Comme dans plein de familles, tu sais, on se raconte des trucs et puis tu as un cousin le jour du mariage qui raconte l'histoire, puis comme ça, ça dure toute la vie. Mais en fait, c'est jamais la même histoire. Et c'est ça qui est chouette d'ailleurs. C'est que 20 ans après, le truc, il a plus aucun rapport avec le machin du début et ça finit par faire une légende. Alors, revenons à nos singes. Ce sont des moines, un peu en altitude, dans un monastère. Les moines, ils sont là pour prier, être calme. Et les singes, ça fait un raffut épouvantable.
On est dans quel pays, François?
On est en Chine. On est en Chine. J'oublie de dire que je suis quelque part. En général, je suis en Chine. Et donc, t'as ces singes qui poussent des cris dans tous les sens et ces moines qui aimeraient bien se recueillir. Et il y a un moine qui perd un peu son sang-froid, ce qui est rare, parce que d'habitude, ils prennent toujours sur eux. Ils font comme si ils arrivaient à pas être sensibles à toute chose désagréable, voire même parfois agréable. Et donc, voilà, il y en a un qui a eu un moment de faiblesse, et pour faire taire les singes, il prend une pierre, un caillou là qu'il a dans la cour devant le monastère, et il la balance sur les singes qui sont en haut des arbres pour qu'ils aillent pousser leurs cris ailleurs. Et les singes, qu'est-ce qu'ils font? Ils poussent des cris de plus belle, le moine pas content, il en balance une, deux, trois, puis je pense qu'il y a d'autres moines avec, allez hop, ils truquent. Et les singes, ils se laissent pas faire, du coup ils arrachent ce qu'ils ont sous la main, ils ont pas de pierre, donc il faut bien qu'ils lancent un autre truc. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont sur des camélias géants, ils sont sur des théiers.
Ouais.
Et donc ils prennent ce qu'ils arrachent, ils arrachent, ils arrachent, et ils balancent ça sur les moines. Mais ce qu'ils arrachent, c'est les feuilles de thé. Et du coup, les moines, ils disent, bah, les singes, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont en train de récolter le thé.
Trop pratique, ça ne coûte pas un rond.
Donc les singes, pour se venger des pierres qu'ils reçoivent, ils cueillent les feuilles et ils les balancent sur les moines, tu parles. Donc les moines, ils n'ont plus qu'à mettre un petit tissu en bas et d'attendre que les feuilles tombent. C'est donc c'est ça le thé récolté par les singes. Tu balances trois pierres dans un groupe de singes et pour se venger, ils te font la récolte du thé et ils te l'envoient sur les moines. Voilà, ça c'est...
Elle est savoureuse. Bon,
ouais, elle est sympa. Mais il y a beaucoup d'histoires de singes en fait. Il y a beaucoup d'histoires de singes dans le thé.
Il y en a une autre qui te vient en tête?
Tu as un thé qui s'appelle le Darongpao et qui est un des thés mais les plus célèbres de Chine. C'est une merveille. Et Darongpao, donc c'est vraiment un thé légendaire. Et là, quand je dis un thé légendaire, c'est un thé mythique. Darongpao, ça veut dire grande robe rouge. Donc la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça et d'où lui vient son nom de grande robe rouge. Donc là aussi, on est dans le sud-est de la Chine. Les singes, ici, réapparaissent. Parce que s'agissant, là aussi, d'une récolte, vraiment un thé sublime, donc typiquement d'une récolte impériale, les singes, ayant appris qu'une partie de ce thé partait pour l'empereur, avaient décidé de se revêtir d'un grand manteau rouge. Et quand tu regardais tes forêts de camélias, ça faisait comme des fleurs, chacun des singes avec son manteau rouge, dans cette forêt de camélias, on avait l'impression d'une forêt couverte de fleurs. Et donc les singes, sachant que c'était pour l'empereur, procédaient à la récolte des feuilles de thé dans leur arbre avec ce beau manteau.
C'est chic.
C'est très chic. Moi, je crois que c'est pas très plausible.
Non, t'as pas rencontré beaucoup de singes en robe rouge dans ta
carrière ?
Non,
parce que j'imagine pas. D'une part, l'empereur exigeait des singes qui portent un manteau rouge, ni des singes récoltés du thé dans cette tenue-là, et même dans une autre tenue, mais encore plus dans cette tenue-là.
Il y a des singes et il y a aussi des dragons dans les légendes du thé.
Alors, il y a des dragons et ça tombe bien parce que justement, on est l'année du dragon. Bah, le thé le plus fameux de Chine, en fait, il s'appelle Longjing. C'est vraiment le thé vert le plus connu. On est à côté de la ville de Hangzhou. Hangzhou, c'est la ville la plus importante d'une province qui s'appelle le Zhejiang. Mm-hmm. Très belle province. On n'est pas très loin de Shanghai. On est au sud-ouest de Shanghai. Et juste à côté de Hangzhou, donc, il y a le thé qui s'appelle Longjing.
Très bon thé.
Très bon thé.
Très délicat, très fin.
Et à Longjing, il y a un puits. Et le puits s'appelle le puits du dragon. Et Longjing, ça signifie le puits du dragon. Donc, pourquoi est-ce que ce thé s'appelle le puits du dragon ? Donc, tu as réellement un puits du dragon que je connais, que j'ai été voir, photographier.
Qui ressemble à quoi ? Il a quelque chose de particulier ?
Si tu fais puits du dragon sur mon blog chercheurdeté.com, ouais, tu le verras en photo. Il est très joli, il est assez discret. Il est tellement connu que je m'attendais à quelque chose un peu, très simple.
Gigantesque ?
Non, très joli, très intime. Mm-hmm. Et donc, la question, c'est de savoir pourquoi ce nom de puits du dragon ? Et alors, une légende dit qu'à des milliers d'années d'aujourd'hui, il y a une grande sécheresse qui a sévi dans cette région. Et que tous les villageois qui faisaient déjà du thé à cette époque-là étaient malheureux comme des pierres à l'idée que les théiers allaient mal se porter, risquaient de mourir. Et ils invoquaient les dieux, et il n'y avait aucune pluie qui ne venait. Et après je ne sais combien de jours de sécheresse, un des paysans, lui, croyait à l'existence du dragon. Et bien c'est lui qui avait raison. Parce que lui, il a invoqué le dragon.
Oui.
Tous les autres, ils regardaient le ciel, là, 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 pour les prières, pour la pluie. Et bien lui, il a invoqué le dragon. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est mis à pleuvoir des trombes. C'était le dragon qui faisait la pluie.
C'est une croyance forte aujourd'hui, encore ?
Mais le thé s'appelle comme ça depuis toujours.
Ouais.
C'est le puits du dragon et il y a de l'eau dans le puits du dragon tous les jours et tu peux aller la boire. Et c'est le puits du dragon qui, encore de nos jours, arrose les théiers de la région.
Tu connais d'autres histoires de dragons ? J'adore ça.
Il y a une famille de thé qui s'appelle les Oolongs, qui sont les thés semi-oxydés. Et Oolong, ça veut dire, a priori, dragon noir. Donc la question, c'est de savoir d'où vient le mot Oolong, parce que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur dragon noir. Parce que des personnes racontent qu'un certain monsieur Wu Yong, on n'est pas très loin.
Je vois.
Qui produisait du thé il y a des milliers d'années,
ouais,
voit un jour passer un cerf. Il le chasse, il le tue, il le prépare. C'était un peu une aubaine, il s'est dit je vais faire un bon repas. Et il en oublie complètement les feuilles de thé qu'il était en train de préparer. Et de faire sécher, il avait besoin de faire sécher ses feuilles plusieurs jours durant. Et quand il retrouve ces feuilles de thé, elles ont changé de couleur, ce qui est logique puisqu'elles n'ont pas séché correctement. Et donc à ce moment-là, il les sèche, il les goûte et il trouve leur parfum délicieux. Et c'est comme ça que le thé se régnait. Alors le thé de Monsieur Wu Liang étant devenu le Wu Long. Voilà, donc ça c'est une légende. Mais sinon, aujourd'hui, les Oolongs, on pense que ça vient simplement du mot dragon noir. Et alors, pourquoi est-ce que ce nom dragon noir ? Eh bien, écoute, c'est simple. Il suffit de regarder tes feuilles de Oolong dans une tasse ou dans un set à déguster. Et regarde la forme des feuilles d'un Oolong. Et regarde-les aussi quand elles dansent dans l'eau.
On dirait des dragons.
On voit virevolter des dragons dans
la
sa tasse.
La gueule ouverte, prêts à cracher leur feu. Je verrai plus du tout ce thé de la même manière. J'enferme les dragons, soyons prudents.
Bon, alors, pendant qu'on est dans les houlongues, je peux aussi te parler d'un autre thé. Regarde, tu vas sentir la feuille ici, qui s'appelle le Tie Kuan Yin, parce que lui aussi, il a un joli nom. Son nom signifie « déesse en fer de la miséricorde ».
Sacré programme.
Tiens, regarde, tu vas le sentir et on va le goûter.
C'est des petites feuilles roulées.
Des petites feuilles roulées. Attention, parce que c'est un dragon en boule. Hein.
Oui, oui.
Et alors, d'où vient ce nom de Tie Kuan Yin? Quelle est la légende? Eh bien, la légende, ça serait une vieille... Son nom viendrait d'une vieille statue rouillée à l'abandon, dont un fermier s'est soucié. Donc, tu imagines, dans son champ de thé, il voit une vieille statue rouillée. Il en prend soin comme d'une divinité. Et un beau matin... Il voit qu'un bourgeon a poussé sur la statue en métal. Il le met en terre et y donne ainsi la vie à un nouveau cépage, le Tie Kuan Yin.
Quelle belle histoire! On a dû faire le tour des légendes.
Tu rigoles. c'est sans fin, les légendes.
Et d'autres thés à goûter aussi.
Bien sûr. Est-ce que tu connais la légende du thé fumé?
Non, ah, j'adore le thé fumé en plus.
Il y a une légende
qui va avec, ouais, j'aime beaucoup ça.
Ah, il y a une légende parce que... Bon, alors, le thé fumé, ce n'est pas un très vieux thé. Alors, c'est un thé qu'on boit absolument pas en Chine. Les Chinois auraient plutôt un peu de dégoût pour un thé aussi fort. D'ailleurs, les Chinois... En général, boivent plutôt des thés verts que des thés noirs. Donc, la légende du thé fumé, elle date du milieu du 19e siècle et c'est une histoire militaire. Là, on est dans le Fujian, sud-est de la Chine, en face de la province de Taïwan ou du pays Taïwan. Et donc, l'armée réquisitionne les grands bâtiments dans lesquels on manufacture la feuille de thé parce qu'ils ont besoin d'aller loger tout un régiment. Et voilà, il faut bien que les gars, ils aillent dormir quelque part. Donc, on dit au fermier, bah, t'es gentil, mais toutes tes feuilles de thé, tu vas la sortir de ton bâtiment, parce que moi, c'est mes soldats qui vont venir là. Donc, il a plus qu'à s'exécuter. Et il est affolé, parce qu'il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mes feuilles de thé, etc. Puis dehors, le temps est à l'humidité. Donc, il est obligé de tout évacuer, de sortir des kilos et des kilos, des dizaines de kilos de feuilles de thé dehors. Alors, heureusement, tout autour, c'est des forêts d'épicéas. Et qu'est-ce qu'il fait, notre gars? Il a du bois qu'il a déjà coupé. Il va faire un feu et finalement il va faire sécher les feuilles de thé au-dessus de feux d'épicéa. Et du coup, grâce à ça, voilà, son thé n'est pas foutu, sa récolte elle n'est pas foutue. Simplement, le thé a pris ce parfum épouvantable de fumée. Et une fois qu'il a fait sécher son thé, il se dit « mais qu'est-ce qu'il va m'acheter une horreur pareille ?» Une horreur pareille. Là, par hasard, un marchand anglais qui n'y connaît rien, on est encore au 19e siècle, le thé... On lui dit c'est du thé, bah il achète parce qu'il a besoin de racheter du thé pour l'envoyer par bateau à Londres. Et donc le Chinois il est content, il se dit oh, j'ai réussi à lui fourguer ma cargaison de thé.
Allez, salut l'anglais.
Des trucs. Et il se dit quand même là il est bien content. Mais qu'est-ce qui se passe des mois plus tard? C'est que le même anglais revient pour à nouveau aller acheter du thé. Donc voilà, ça c'est la légende du thé fumé. Il serait né comme ça accidentellement avec ce régiment qui a décidé de dormir là. Il y aurait eu un succès considérable en Occident. Et du coup, à partir de là, les Chinois se seraient mis à fabriquer du thé fumé.
Je vais me mettre dans la peau de cet anglais.
Ah, exactement. Et on va déguster. Regarde, ah oui. Je te sers une jolie tasse de thé fumé à l'extérieur du bâtiment grâce à tout ce... On va dire merci au régiment.
Tu vois, ça n'a pas la même saleur avec l'histoire.
Ah bah non, alors ça sent pas le régiment, mais ça sent l'épicé. Mais ça sent l'épicé.
Une petite odeur de régiment par là, quand même.
Mais ça sent l'épicéa,
ouais,
et c'est dans une forêt. Et donc j'ai visité l'endroit, c'est au milieu d'un parc national absolument magnifique. Et t'as toujours cette vieille usine pour faire le thé fumé. C'est un thé qui réveille, hein, ça fait du bien... Après, on aime ou on n'aime pas. Il y a des personnes qui détestent le thé fumé et d'autres qui en raffolent.
Moi, je trouve ça saisissant. Il y a un petit côté...
Délicieux avec le brunch, avec des choses un peu salées, avec une omelette, avec des choses comme ça, le thé fumé.
D'ailleurs, toutes les histoires que tu racontes, enfin tous les thés qu'on déguste, dans les quatre saisons, on a parlé des thés fumés. Il y a un épisode sur les thés blancs, les thés noirs, les thés verts, différents pays. Donc, il ne faut pas hésiter à aller écouter tous les autres épisodes parce qu'il y a plein d'autres histoires, plein d'autres voyages que tu nous racontes.
Tu veux dire, on raconte que des histoires depuis toujours?
Mais il y a beaucoup d'histoires vraies avec toi, heureusement.
Bah oui. Alors, une dernière?
Une dernière.
Ah non, j'en ai encore deux.
Ah, deux?
Oui, deux légendes. Il y a toute une histoire sur le pu'er. Tu sais, le pu'er, c'est un thé fermenté. Et pour faire ce type de thé, on utilise toujours des vieilles feuilles. Et il y a une légende qui dit, parce que il y a un pu'er qui est réputé en Chine et qui s'appelle fond de culotte.
Ah tiens.
Donc, ou fond de pantalon. C'est pas très chic comme expression. Et c'est simplement parce que les jeunes filles qui étaient en charge de la récolte, à qui on demandait de récolter les feuilles grossières, elles savaient bien qu'on faisait les meilleurs thés avec les jolies feuilles fraîches, les bourgeons et le tout. Et du coup, elles le cachaient dans leurs pantalons bouffants, les meilleures feuilles qu'elles allaient après revendre pour leur compte au marché du coin.
Assez réaliste, cette légende.
Oui, sans doute. Du coup, on goûte un pu'er,
ouais,
regarde.
Avec plaisir. Je suis très liqueur et couleur aujourd'hui. Je trouve que la liqueur est très...
T'as vu,
très...
c'était un thé très sombre, oh, très beau.
Très caramel.
Voilà, le thé pantalon bouffant. Qu'est-ce que ça donne?
Bah, délicieux. Tu vas dire, je suis pas très difficile, mais non, mais j'aime tellement tous ces thés différents, comme ils racontent tous des histoires différentes.
On en boit des légendes.
On en boit du thé. Alors, tu as une dernière histoire.
Alors, peut-être pour finir, une dernière légende. Elle m'amuse, celle-là. Elle est rigolote, parce que t'as un thé très... Bon, il est pas très fréquent. On le voit pas beaucoup, mais il est très réputé. Mais beaucoup de Chinois l'ont jamais bu de leur vie. Mais il fait quand même partie des thés légendaires. Mais il existe pour de vrai. Donc, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il s'appelle caca de canard.
On peut se poser la question.
Voilà, on peut se poser la question. Donc, c'est un peu effrayant. Si on te propose un thé qui s'appelle caca de canard, tu vas peut-être hésiter.
Si c'est toi, ça va.
Ouais. En tout cas, on en a devant nous et on va pouvoir le déguster. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça? Donc, en chinois, on dit, pour la traduction, c'est Yashi Xiang. On est dans la région des Dansong, donc très, très beauté, région extrêmement fameuse. On est entre Fujian et le Guangdong. Alors, il s'appelle comme ça parce que les villageois trouvaient leur thé tellement délicieux qu'ils avaient peur de se faire piquer leur théier. Et du coup, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire si les gens après goûtent ça? Mais ils vont vouloir nous arracher les théiers, parce que peut-être ils vont penser que c'est les théiers qui font ça et pas que la manufacture. Et donc, ils se sont dit, il faut absolument qu'on fasse courir un bruit. Et leur idée, ça a été de faire courir un bruit, et ça, avec succès, parce que tu vois, de nos jours, on continue à appeler ce thé avec ce nom si étrange. Et donc, de peur de se faire voler leur théier par des étrangers, ils ont répandu une rumeur. Tu vois, tu peux voir ici la couleur du thé, la couleur des feuilles de thé. Et ils ont fait courir le bruit que la couleur de la feuille de thé venait d'un épandage de caca de canard. De ce jour-là, les gens étaient si dégoûtés qu'il y a personne qui s'est risqué à leur prendre quoi que ce soit de leur sublime récolte.
C'est coquin, mais quelle bonne idée.
Et voilà, donc je te propose maintenant, et ça sera pour clôturer cette saison, de déguster cette merveilleuse légende chinoise.
C'est sublime.
Mais c'est sublime.
Il y a beaucoup de caractère, ce thé. Comment tu le décrirais?
Il est d'une très longue bouche.
Ouais.
T'as beaucoup de fruits confits, fruits compotés, abricots secs. Il est à la fois boisé, végétal, fruité, réglissé, très réglissé. La longueur, fine astringence.
Et c'est une claque, ce thé, par rapport au précédent.
C'est quand même un thé mythique. Ils étaient tranquilles avec ce nom-là. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de leur piquer, hein. Ça fait bizarre de se quitter là-dessus.
J'ai une idée. On va annoncer la saison 5 d'Un thé, un voyage. Et pour fêter ça, trois indices.
Pour notre prochain épisode, je te propose une couleur et une forme.
On commence par la couleur?
La couleur verte.
Oui. Et la forme?
La forme d'une aiguille.
C'est intriguant.
Ta-ta-ta.
Savourez tous les épisodes d'Un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur palaisdete.com.